Bertrand Tungandemé pour vous présenter cette édition. Au sommaire, le Premier ministre Malcolm Turnbull rejette l'offre de la Nouvelle-Zélande d'accueillir des migrants détenus en Australie. À Munich, Européens et Américains tentent de redéfinir une sécurité commune mise en doute par le président Donald Trump. Et en France, les candidats de la gauche tentent de s'unir. Et la grève des enseignants gagne du terrain en Guinée-Conakry. Le Premier ministre Malcolm Turnbull a rejeté poliment l'offre de la Nouvelle-Zélande d'accueillir 150 réfugiés actuellement détenus dans les réseaux de centres de rétention australiens. Bill English, le Premier ministre néo-zélandais, avait déclaré que son pays est toujours disposé à honorer une offre qu'il avait faite auparavant. Cependant, Malcolm Turnbull a rejeté cette offre en arguant que pour le moment, l'Australie met l'accent sur les arrangements avec les États-Unis.
This offer from New Zealand has been available for some time, and it's one that we appreciate, but our focus is on completing the arrangements with the United States.
Et le groupe de pression GetUp signale que les libéraux en Australie de l'Ouest vont payer très cher leur alliance avec le parti d'extrême droite One Nation lors du prochain scrutin. Selon un récent sondage effectué par le groupe de pression GetUp dans deux circonscriptions marginales, un tiers des personnes sondées disent qu'elles ne voteront pas pour les libéraux en raison de leur alliance avec One Nation. Ces circonscriptions comptent parmi leurs habitants une grande proportion de personnes d'origine diverse dont l'anglais n'est pas la première langue. Shen Nayaranasamy, porte-parole de GetUp, a déclaré à la SBS qu'une alliance avec des partis opposés au multiculturalisme a des répercussions non négligeables sur l'électorat.
Multicultural communities in this country make up a significant voting bloc. They're between 30-40% of the country, and in around 20 marginal seats in the country, they make up more than 50% of that seat. So it's a significant opinion that has consistently been not taken very seriously by the political establishment.
Et on reste toujours dans le domaine des élections. Bien, en France, à l'approche des présidentielles de 2017, l'idée d'un éventuel rapprochement de plusieurs candidats de gauche avance. En effet, un accord serait sur le point d'être trouvé entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, et des contacts ont enfin été établis entre le candidat du PS et Jean-Luc Mélenchon. Reportage Anthony Latiès pour RFI.
Après plusieurs jours à jouer au chat et à la souris, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se sont parlé au téléphone. Jean-Luc Mélenchon a fait des propositions pour une date de rendez-vous la semaine prochaine et on attend d'en savoir plus. Des négociations pourraient ensuite s'ouvrir. Et ce ne sera pas facile, euphémise Benoît Hamon. D'abord sur le fond, bien sûr, les idées, les propositions. Là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, dans une lettre qu'il a envoyée à Benoît Hamon, pose des conditions très strictes, comme le retrait de plusieurs mesures votées sous la présidence Hollande, un changement de constitution, ou encore la sortie de l'OTAN, mais aussi la mise à l'écart des ministres du gouvernement qui ont imposé la loi travail. Et puis, négociation aussi sur une éventuelle candidature unique, très hypothétique pour le moment. Jean-Luc Mélenchon a proposé la sienne. Benoît Hamon, lui, ne pose pas de préalable, mais il peut faire prévaloir sa désignation par 1 200 000 personnes lors d'une primaire, et il a pour lui la dynamique du rassemblement, puisque les négociations avec Yannick Jadot devraient aboutir en début de semaine prochaine, selon l'équipe de l'écologiste.
Hier, à l'ouverture de la conférence sur la sécurité de Munich, les intervenants ont tenté de se positionner face aux incertitudes de la politique étrangère de Donald Trump. Les intervenants ont tous répété que l'OTAN, jugée obsolète par Donald Trump, restait une structure essentielle. Reportage depuis Munich, Pascal Thibault pour RFI.
La relation transatlantique a été au cœur des débats. Ce vendredi, les intervenants ont tous répété que l'OTAN, jugée obsolète par Donald Trump, restait une structure essentielle. La ministre de la Défense allemande a répété que les Européens devaient supporter une part plus importante financièrement et matériellement. Mais Ursula von der Leyen a en même temps lancé quelques mises en garde aux États-Unis contre des décisions solitaires, contre la tentation de mettre sur le même plan l'Europe et la Russie accusées de remettre les valeurs occidentales et le droit international en cause. La ministre allemande a aussi critiqué les mesures prises par les États-Unis contre les ressortissants de pays musulmans ou l'utilisation de la torture dans la lutte contre le terrorisme. L'administration Trump, très attendue à Munich, était représentée ce vendredi par le secrétaire d'État à la Défense qui a voulu rassurer les Européens, comme à Bruxelles mercredi. James Mattis a souligné le caractère intangible de l'OTAN tout en soulignant la nécessité pour les Européens de s'impliquer plus activement dans le fonctionnement de l'organisation. Le sénateur républicain McCain, voix critique de Donald Trump, s'est livré à un exercice similaire, déclarant « Nous vivons une période dangereuse, mais les Européens ne doivent pas en conclure que les États-Unis ne comptent plus ».
Et sur le continent africain, la Gambie s'apprête à célébrer son indépendance. Une grande fête est prévue au stade de Banjul en présence de nombreux invités, notamment des chefs d'État de la sous-région. Une célébration qui symbolise une nouvelle ère pour le pays, qui concrétise notamment la prise de fonction d'Adama Barrow. On se souvient que le nouveau président avait prêté serment à Dakar, car Yahya Jammeh, président sortant, refusait de quitter son poste. Guillaume Thibault, pour RFI, donc, nous apporte un récit sur l'ambiance sur place à Banjul, la capitale de Gambie.
Drapeau, poster géant, t-shirt et même des tasses célébrant le président Barrow. La capitale se prépare dans la tranquillité à cette fête nationale. Alioune Diaye, taximan de 25 ans, boit son thé en attendant les célébrations de demain.
Cette tasse est à l'effigie du nouveau président. Tout le monde est heureux car nous avons un nouveau pays. Comme vous pouvez le voir, les touristes sont revenus. C'est une renaissance pour les Gambiens.
Avant de filer à la mosquée pour la grande prière du vendredi, Mohamed Diallo, 45 ans, gardien, enfile son t-shirt. Gambia has decided, la Gambie a fait son choix, c'est celui du président Barrow.
C'est la joie et le bonheur. Je suis vraiment content de savoir que mon nouveau président va être intronisé en Gambie et qu'il va faire de la Gambie une nouvelle Gambie.
Lamine Diawara habite tout près du stade de l'indépendance. Il est venu assister au dernier réglage de la cérémonie de samedi.
Ça va être une très très belle journée pour la Gambie, celle que l'on attend depuis si longtemps. Durant 22 ans, on s'est battu pour faire partir Jammeh. Avec l'aide de Dieu, tout ira bien.
Dans le stade de Banjul, les corps de l'armée défilent, la fanfare répète une ultime fois. Le président Barrow a appelé les populations de toutes les régions du pays à venir participer à cette fête de l'indépendance.
Et c'était un reportage de Guillaume Thibault pour RFI. Et on reste toujours en Afrique, mais cette fois-ci en Guinée, où il n'y a toujours pas de cours pour les écoliers et les étudiants. Donc, depuis plus de 2 semaines, les écoliers et les étudiants donc ne peuvent plus aller à l'école car il y a une grève d'enseignants qui gagne du terrain et qui, cette fois-ci, en début de cette semaine, a même gagné le milieu universitaire. De nombreuses universités, donc étudiants du troisième cycle, ne vont plus aux études. Reportage depuis donc Conakry avec Coralie Pires pour RFI.
Dans le quartier Domino, toutes les portes des écoles, des lycées publics ou privés sont closes. Quelques enfants jouent au ballon dans la rue. Pour occuper sa fille et son garçon, Mamadi Kaba a multiplié les cours de son professeur à domicile.
Le contrat, c'était 3 jours par semaine. Maintenant, on est obligé de rallonger à tous les jours pour permettre aux enfants d'être occupés, au moins. On est obligé de payer parce que les enfants sont à la maison. Les vacances viennent d'être terminées. Et à l'entame des cours, on dit que les écoles sont encore fermées, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que les enfants vont finir le programme? Je ne sais pas, c'est un point d'interrogation. C'est vrai, c'est vraiment un souci pour nous.
Les universités sont également fermées jusqu'à nouvel ordre. Mohamed Silla est en licence de relations internationales. Il révise pour son examen de fin d'année.
Quotidiennement, le matin, je prends mon manuel du droit international humanitaire juste pour me performer. Tout cela à la maison. Je suis un peu inquiet à cause des programmes non achevés, car c'est notre dernière année, donc ça va se répercuter sur nous. Je ne veux pas rater même un cours.
Les cours reprendront dans le calme et la sérénité à la fin des négociations, a rappelé le gouvernement dans un communiqué.
Et en marge de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU à Munich, la chancelière allemande Angela Merkel a réaffirmé que son pays s'engage à combattre la fuite et le déplacement des réfugiés dans leur pays d'origine. On écoute Angela Merkel.
Wir wissen, dass die Zahl der Flüchtlinge auf der Welt.
We know that the number of refugees in the world is the largest we've ever had since World War II, and that's why we supported former UN Secretary General Ban Ki-moon in seeing the humanitarian challenges of flight and displacement as a global task. Of course, above all, we're fighting causes of flight on the ground, and that was also an issue today in our talks.
Il faut signaler que sous l'ancien secrétaire général, M. Ban Ki-moon, bien les Nations Unies avaient tenté en vain de faire cesser les hostilités en Syrie, en Libye et au Yémen. Il faut signaler qu'entre-temps, les conflits en Ukraine, au Nigeria et au Soudan, au Sud-Soudan, eux n'ont cessé de s'amplifier. Et le nouveau secrétaire général, Antonio Guterres, entré en fonction au mois de janvier dernier, estime qu'une solution globale est nécessaire pour résoudre ces conflits. Et on va aux États-Unis où le président Donald Trump a promis de relancer la production industrielle et a menacé de sanctionner les entreprises qui relocaliseraient les emplois à l'étranger. Donald Trump a fait ses déclarations lors de sa visite chez l'avionneur Boeing à l'occasion du lancement de son nouveau jet, le Dreamliner. Selon le président Donald Trump, la nouvelle formule, c'est désormais acheter américain et embaucher américain.
I'm going to do everything I can to unleash the power of the American spirit and to put our great people back to work.
Et toujours aux États-Unis, une nouvelle exposition au Smithsonian National Museum à Washington marque le 75e anniversaire de la décision du président Franklin Roosevelt de faire emprisonner 120 000 personnes d'origine japonaise soupçonnées injustement des complicités avec le Japon après l'attaque de Pearl Harbor. Selon Bob Fushigami, âgé de 85 ans et ancien détenu injustement, il est très important de se rappeler des erreurs du passé.
Japanese Americans were patriotic, loyal Americans, just like everybody else. But we had been attacked by the nation of Japan, and they did a bad thing. I mean, they should not have attacked Pearl Harbor, but they did. But we had nothing to do with that. Japanese Americans had nothing to do with the attack on Pearl Harbor.
Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Adelaide 20 degrés, Alice Springs 35, Cairns 32 degrés, Brisbane 34, Canberra 28 degrés, Hobart 19, Perth 34 degrés, Darwin 33, Melbourne 20 degrés et Sydney 29 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 77 centimes de dollars US et 72 centimes d'euros. Ceci termine cette édition. À présent, un rappel des titres. Le Premier ministre Malcolm Turnbull rejette l'offre de la Nouvelle-Zélande d'accueillir des migrants détenus en Australie. À Munich, Européens et Américains tentent de redéfinir une sécurité commune mise en doute par le président Donald Trump. Et en France, les candidats de la gauche tentent de s'unir et la grève des enseignants gagne du terrain en Guinée-Conakry.